cette année est consacrée, disons, au folklore, les folklores des pays d'Europe, carnaval et folklore des pays d'Europe. Bon, il y a plusieurs chapitres comme d'habitude, et le premier chapitre de ce programme, donc, nous achemine du mythe au conte. On verra comment on peut passer du mythe au conte. Donc il y a plusieurs cours, et je dois préciser que les deux premiers cours seront difficiles. Mais ce sont en même temps les deux seuls cours de l'année qui seront difficiles. Un peu difficiles, hein, bon, mais difficiles quand même. Donc vous êtes avertis, et après le passage difficile de ces deux premiers cours, donc le cours de mercredi prochain et le cours de mercredi d'après, après ce passage, je vous rassure, le programme sera folklorique, carnavalesque, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune difficulté, donc le but sera de bien rigoler, quoi, en fait, hein, un peu comme l'an dernier, hein, l'an dernier le programme avait été consacré au vaudou et à la magie, toute l'année j'ai fait des tours de magie. C'est bien monté. Bon, là, ça sera pareil. Selon l'orientation, c'est plutôt le carnaval et le folklore. Excepté qu'il y a ces deux premiers cours. Alors, un petit peu, effectivement, difficile. Pourquoi ? Parce que, donc, il s'agira de dire qu'un mythe, ça n'est pas un conte. Un mythe, ça n'est pas une légende. Donc, ça sera le but, d'ailleurs, de ce chapitre, hein, de dire un conte n'est pas une légende n'est pas un mythe, un conte n'est pas un mythe. Bon. Et c'est pas une fable, donc hein, il faut bien distinguer ces choses-là. Un mythe a quelque chose à voir avec l'organisation des sociétés. Donc, on va s'intéresser à la structure du mythe, à quoi correspond la structure des sociétés. Pour le dire autrement, on se sert du travail des structuralistes. Ce sont les structuralistes qui travaillent dans ce sens, le mythe, et qui nous expliquent la fonction d'un mythe au sein d'une société. On aura recours à différents auteurs, et Dumézil, par exemple, Georges Dumézil, nous prévient, donc je le cite, il nous dit « Les mythes ne se laissent pas comprendre si on les coupe de la vie des hommes qui les racontent, ils ne sont pas des inventions dramatiques ou lyriques gratuites ». Donc un mythe, c'est pas quelque chose de gratuit, c'est pas une histoire qui est gratuite. Hein. Donc ça s'implique dans l'organisation d'une société, ça justifie en fait les privilèges de certaines classes sociales. Oui, ça correspond à l'organisation d'une société. Et ces deux cours un peu difficiles sont cependant indispensables, parce que le but recherché, c'est justement de distinguer le mythe du conte, mais de dire en même temps que le conte dérive du mythe. Et si on veut comprendre ce qu'est un conte, comprendre ce que nous dit l'ethnologue, hein, quand il dit « ce qui importe est la fonction actuelle du folklore qui ne survit ni ne disparaît jamais sans raison », il faudra bien sûr poser d'abord la définition du mythe. Une fois posée cette définition, voilà, on saura la différence par rapport au conte, par rapport à la légende et par rapport à la fable, mais la fable n'a rien à voir dans ce programme-là. Donc voilà, hein, ces deux cours, un peu effectivement, un peu difficiles, mais indispensables. On ne peut pas, on ne doit pas, au cours de cette année, confondre le mythe et le conte. Hein. Donc ce premier chapitre, c'est ça, c'est acheminer comme ça les choses du mythe au conte. À ce propos, vous avez déjà récupéré la bibliographie de cette année. Hein. La bibliographie est disponible depuis 2 mois sur le site de l'ACLA. Donc le site de l'ACLA, c'est ça, aclahistoire.org. Donc sur ce site, vous pouvez le consulter maintenant, hein, sur votre tablette ou votre portable. Donc sur ce site, vous avez le programme et calendrier, hein, je vous le rappelle. Donc vous avez ici, là, donc je vais déjà vous dire. Donc vous avez effectivement ici, vous lisez programme de cours et vous retrouvez logiquement assez facilement votre programme de cours de cette année. C'est en accès libre. Tout le monde, hein, donc un Australien, donc un Africain du Sud, un Mexicain peut donc obtenir le programme de cette année. Donc s'ils peuvent le faire, vous pouvez le faire. A priori, hein, bon. Donc le site est important, et sur la page d'accueil, vous avez déjà accès à la biographie. Et biographie, vous pouvez la venir. Voilà, donc là, c'est pareil, vous allez sur le site, vous cliquez sur cette biographie à propos des carnavals et des folklores des pays d'Europe contre les gens, superstitions et croyances populaires, vous avez toute la biographie de cette année. Je n'ai sélectionné que des titres en français. cette biographie. Donc elle est intéressante, importante, mais je ne la donnerai pas en photocopie, hein, parce que je me suis rendu compte aussi que quand en histoire des religions, je donne des photocopies, glossaires, cartes, biographies, les gens prenaient peur, hein, donc ils ne revenaient plus au cours, hein, plus de photocopies. Donc par contre, effectivement, vous le savez, et là vous en faites ce que vous voulez de l'information, vous avez une biographie qui correspond à notre programme, accessible sur le site, maintenant, voilà, 2 mois, peut-être pas 2 mois, un mois et demi, au moins. Sinon 2 mois quand même. Hein. Donc ça c'est intéressant effectivement que vous le sachiez, hein, d'autant plus que moi je n'en reparlerai plus de la biographie dès lors qu'elle est là sur le site, accessible à tous, hein, vous n'avez pas besoin d'être abonné à l'ACLA, hein, je ne demande pas d'être adhérent à l'ACLA, mais donc d'aller effectivement, si vous le souhaitez, consulter la biographie de cette année sur ce site-là. Ensuite, vous avez déjà le résumé du premier cours, il est là. Et ça c'est le premier cours ça, le premier et deuxième cours en fait, hein. Qu'est-ce qu'un mythe et le mythe des inventions. Donc là, moi, c'est pareil, hein, je veux pas donc obliger hein, quiconque, mais je reconnais que si vous allez sur le site, que vous cliquez donc sur cet article-là, qui est en accès libre, pas besoin d'être abonné pour avoir accès donc à cet article, bon, bah, si vous lisez cet article, ça vous facilitera les choses pour les 2 premiers cours. Vous pouvez le faire maintenant si vous voulez, avec votre portable. Vous allez donc sur le site et vous lisez l'article. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est un texte de préparation. Ça va vous orienter, vous préparer pour mieux suivre les 2 premiers cours, qu'est-ce qu'un mythe et le mythe et sa fonction. Donc ainsi, vous avez déjà la biographie et puis le résumé du premier cours. Hein. Juste le résumé, hein, c'est quelques orientations, comme ça, c'est pas le cours. Hein. Le cours sera différent, mais je vous reconnais que pour ceux qui auront lu cette article, ça sera plus simple de suivre les 2 premiers cours. Alors voilà, donc ainsi, on commence comme ça par le mythe. Qu'est-ce qu'un mythe? Le mythe et sa fonction. On a compris, c'est lié à la structure des sociétés. Et à partir de là, on va appliquer cette définition du mythe. La première application, c'est dans la politique athénienne du mythe. On va vite se rendre compte, effectivement, que les grands mythes de fondation de la ville d'Athènes, impliquant Athéna, impliquant Poséidon, impliquant même Thésée, sont utilisés. C'est-à-dire que le mythe a une utilité au sein de la société, au sein de l'organisation politique d'une société telle, la société athénienne, de l'époque de Périclès ou encore avant Périclès. Bon. Donc on verra comment, effectivement, on se sert, on utilise des mythes de fondation pour mener une politique dans une ville comme Athènes, en se servant de ces grands personnages de la mythologie, donc Thésée, Athéna, ou encore Poséidon. Donc là, c'est intéressant, c'est une application directe des choses qui montre que le mythe, bah, c'est pas une simple histoire, hein, c'est pas une histoire gratuite, hein, si on s'en sert pour mener une politique. Ensuite, deuxième application, c'est à propos justement des héros. Donc on aura un petit peu parlé de Thésée, c'est le grand héros athénien, la mythe, hein, Thésée, hein, c'est un personnage mythique. Et donc là, ça sera l'occasion de voir ses confrères, si l'on veut, donc Thésée, Persée, Bellérophon, les grands héros, mais attention, en fait, derrière ces mythes, les mythes de Thésée, Persée, Bellérophon, ce qui va nous intéresser, c'est un rituel. Le rituel le plus important de l'Antiquité, c'est le rituel de l'initiation. Donc plus précisément, l'initiation masculine. Là, c'est un moment très grave dans la vie d'une société ou d'une communauté. Donc l'enfant ou l'adolescent va être initié. Et pour cela, il a des exemples. Donc il a des repères ou des exemples. Ces exemples sont justement les Thésée, Persée, Bellérophon. Donc on parlera à la fois des mythes et du rituel. Et on aura soin de préciser que le mythe est toujours une justification du rituel qui est pratiqué dans une communauté. Donc là, le rituel, c'est l'initiation, et on verra comment le mythe justifie donc le rituel. Le mythe est souvent dit ou présenté comme étant la parole explicative du rite. Hein. Attention à certains historiens des religions qui retournent les choses et nous disent au contraire que c'est le rite qui est à l'origine de tout, ou parfois donc, le mythe qui est à l'origine de tout. Avant le rite, il y aurait le mythe, mais parfois certains disent l'unité de la parole explicative du rite, donc bien après l'unité. Alors quoi qu'il en soit, dans tous les cas, le mythe Thésée, persévérer au fond, justifie le rite. Le rite, ici, l'initiation masculine. Alors de l'initiation masculine, on passera à l'initiation féminine, c'est-à-dire avec ce sujet, Hélène, son culte et l'initiation tribale féminine en Grèce. Tribal, c'est un mot qui est bienvenu, parce que donc on est dans des sociétés qui sont d'abord donc rigoureusement patriarcales et patrilinéaires. Donc on est dans le contexte de cité-État. Donc on pratique des rituels qui sont des rituels tribaux finalement. Et là, ça sera l'occasion de parler du culte et de l'initiation tribale de la femme en Grèce ancienne à travers un mythe qui est extrêmement célèbre, c'est le mythe d'Hélène. Et l'occasion sera donc pour nous de comparer l'initiation masculine et l'initiation féminine. C'est pas la même chose. Donc l'initiation masculine a lieu au moment de l'adolescence, hein, quand le garçon est encore garçon si vous voulez, et une fois initié, il peut prétendre donc au mariage, il devrait attendre être marié, ou se marier, pardon. Par contre, pour la jeune femme, l'initiation a lieu au moment du mariage ou juste après le mariage. Donc il y a une différence très très sensible entre l'initiation masculine et l'initiation féminine. Hein. Bon, ben, c'est l'exemple d'Hélène. Hélène est, vous connaissez le mythe d'Hélène, Hélène a été enlevée. Enlevée par Paris, oui, soit, mais Hélène était mariée. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant. Ça va poser donc, un thème qui va nous suivre toute l'année, qui est le thème de l'enlèvement de la jeune épousée. Donc à travers le mythe d'Hélène. Hein. Et donc, l'occasion pour nous, ça sera de parler de l'initiation féminine, hein, le rituel de l'initiation de la jeune femme. Seulement, bon, ben, voilà, ce rituel n'a pas lieu quand la. Donc quand la fille est encore fille, mais quand elle est jeune épousée, jeune femme en fait, hein, attends, différence. De là, on pourra présenter les puissances du mariage en Grèce, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr des déesses qui patronnent tout ça. Donc les grandes déesses du panthéon grec qui patronnent le mariage, qui le règlent, qui vont régler le mariage dans tous les détails, bon, qui sont effectivement les puissances tutélaires du mariage. Bon, on verra, il y en a plusieurs en fait pour la Grèce ancienne. Donc ce cours est complémentaire du précédent, en fait, concernant Hélène. On parlera de l'initiation, puis on parlera de ce moment qui est fondamental dans la vie d'une femme, donc dans ces sociétés-là, attention, les sociétés antiques grecques, donc c'est-à-dire le mariage, à la fois l'initiation et le mariage. Alors ensuite, ben, on conclut ce chapitre avec un conte, c'est-à-dire qu'on aura glissé insensiblement du mythe au conte. Dans le mythe, on aura relevé des thèmes, comme je ne sais pas, l'enlèvement de la jeune épousée à travers Hélène, c'est un mythe, et avec le conte de Psyché, on verra comment donc on peut trouver effectivement dans des histoires qui ne s'impliquent plus dans la structure de société, qui ne justifient plus l'organisation d'une société, comment dans ces histoires on peut retrouver quelque chose qui vient du mythe, hein, donc le conte étant comme une dérive du mythe, si vous voulez. Donc, qui raconte ce conte de Psyché, c'est Apulée de Madore. C'est un romain, Apulée de Madore. Du moins, il écrit en latin. Ça nous situe au deuxième siècle de notre ère. C'est-à-dire, c'est, ben, je ne sais pas, c'est sept siècles après Périclès. Donc, il y a quand même une distance énorme dans le temps entre donc, la société des Grecs et Périclès et ce que nous raconte Apulée de Madore. Bon, donc, il nous raconte l'histoire de Psyché. Qui est Psyché, c'est une jeune épousée. Et Psyché, la jeune épousée, va subir son rite d'initiation aussitôt, après avoir donc été mariée donc à ce personnage, je ne sais pas qui c'est, donc un monstre, elle a épousé un monstre, comme vous le savez. Donc là, elle transgresse un interdit. Cet interdit fait qu'elle perd son époux. Elle perd son époux. Et son initiation, en quelque sorte, sera de partir à la quête de son époux disparu, si elle veut retrouver effectivement son époux. Donc c'est bien ce que l'on a dans ce récit, des éléments mythiques en puissance, mais qui sont plus qui ne sont plus des mythes, qui sont affaiblis. C'est Lévi-Strauss qui disait un conte est un mythe affaibli. Bon, ben, c'est tout à fait le cas du conte de Psyché. On ne pourrait pas le comprendre sans la mythologie et sans les rituels pratiqués par les Grecs, mais ça n'a plus d'incidence sur l'organisation d'une société civile. Ensuite, on verra à quel point cette histoire a des conséquences énormes dans le folklore. Hein. Pensez, je ne sais pas, donc, à une époque beaucoup plus récente, à la Belle et la Bête de Cocteau. La Belle et la Bête de Cocteau, c'est l'histoire de Psyché. Cocteau reprend donc l'histoire de Psyché là-dessus. Pensez à Walt Disney. Walt Disney donc, a proposé sa version de La Belle et la Bête. Donc c'est assez vertigineux parce qu'en fait, donc, quand on voit le Walt Disney aujourd'hui, il faut se dire que c'est emprunté à Cocteau, que Cocteau l'empruntait à Appelé de Mador, que Appelé de Mador empruntait son histoire à de très vieux mythes grecs de l'Antiquité, dont la source est sans doute indo-européenne. Voilà, c'est donc assez vertigineux dans le temps, hein, cette histoire-là. Et c'est ça l'intérêt quand l'ethnologue nous dit voilà, donc, que ce qui importe est la fonction actuelle du folklore qui ne survit ni ne disparaît jamais sans raison. Donc on fera déjà donc, une façon de comprendre tout ça. Je précise pour ceux qui me suivent depuis longtemps que c'est de la redite. Hein. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de passer tout ça. Hein. Donc, ne venez pas hein, pour le premier chapitre. C'est de la redite. Hein. Vous avez déjà suivi ces cours, vous les connaissez par cœur. Je les ai déjà fait souvent, donc, pour les anciens étudiants, c'est pas pour vous. Hein. C'est pas pour vous. Donc, là, vous reprendrez donc, le programme à partir, disons, du deuxième chapitre. Deuxième chapitre, là, c'est beaucoup plus inédit hein, que le premier chapitre. Alors, deuxième chapitre qui va tenter de nous conduire des fêtes religieuses gréco-romaines au carnaval, nous acheminer de l'un à l'autre et voir comment on procède, comment le passage se fait finalement des fêtes religieuses gréco-romaines au carnaval. Alors d'emblée, on parlera de la lustration et du pharmakos en précisant que dans l'Antiquité, tout dépend de la prospérité de l'agriculture. C'est-à-dire qu'avant même de construire une société, avant même de parler de politique, ce qui va compter, c'est la prospérité de l'agriculture. Donc, les rites les plus importants sous l'Antiquité sont des rites agraires, si vous voulez. Hein. Donc c'est ça, la lustration et le pharmakos sont des rituels agraires extrêmement importants dans la Grèce ancienne. Donc je vous ai mis rite préservateur ou apotropaïque. Alors en effet, la lustration est une procession. Donc tous les lustres, si vous voulez, donc les Grecs pratiquaient une lustration, une procession. Et le pharmakon, c'est en quelque sorte le bouc émissaire. Hein, c'est-à-dire donc une figure, un personnage, ça peut être un animal, qui va prendre sur lui tous les maux. Et on va le chasser, bien sûr, très loin de la communauté, de façon à ce qu'il emporte avec lui tous les maux qui pourraient empêcher la prospérité de l'agriculture. Ainsi, vous avez donc deux rituels, l'illustration et le pharmakos, qui visent pour le premier, promouvoir la fécondité. L'illustration, c'est promouvoir la fécondité. Et pour le second, le pharmakos, c'est conjurer les calamités. Donc ce sont bien des rites préservateurs et apotropaïques. Apotropaïque, c'est un mot très intéressant, très pratique. C'est par exemple la référence à une tête monstrueuse dans l'art, hein, donc attachée, je ne sais pas, à une église ou autre chose. Bon, souvent, le masque monstrueux donc, est apotropaïque. On dit apotropaïque, hein, c'est-à-dire qu'il est monstrueux pour chasser le mal. On combat le mal par le mal, hein, en quelque sorte. Hein. Alors ça, ce sont des rites extrêmement importants. Et de là, on passera au rite de protection des récoltes contre le mauvais œil, les sorciers et les sorcières, dans les campagnes françaises. C'est-à-dire que brusquement, on fera un saut dans le temps incroyable, et on rappellera qu'il y a encore 50 ou 70 ans, dans les campagnes françaises, et je ne suis pas sûr finalement qu'il n'y a pas des paysans aujourd'hui qui ne le font pas, qui ne le pratiquent pas, il y avait effectivement des rituels de protection qui étaient réalisés pour protéger les récoltes contre le mauvais œil, les sorciers et les sorcières. Bien sûr, ce cours est aussi un clin d'œil au programme de l'an dernier, où on a avait parlé du vaudou, de la magie, etc. C'est-à-dire qu'on avait dit, le vaudou, les haïtiens, ils ne sont pas très évolués, les haïtiens, donc c'est pour ça qu'ils sont constamment dans la superstition, les croyances, etc. Nous, nous sommes cartésiens. Nous sommes très au-dessus des haïtiens, de leur superstition, de leur magie, de leur religion, vaudou, etc., etc. Maintenant, en fait, on va se rendre compte que cet imaginaire, cette croyance en des sorciers qui pourraient empêcher la prospérité de l'agriculture, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans les campagnes françaises, ou du moins ça l'a été jusqu'à une époque effectivement très récente. Donc là, on aura recours à un titre qui est indispensable à connaître dans la bibliographie, vous le retrouverez, c'est le travail qu'a fait Arnold van Gennep. Voilà, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a compilé tous les rituels, tout le folklore en fait, toutes les pratiques folkloriques ou les pratiques qui sont, populaires dans les campagnes d'ailleurs, il les a compilées. Pour la France en tout cas, c'est en 3 volumes, c'est un travail énorme et donc vraiment très très précieux pour rappeler ce que l'on faisait il n'y a pas très longtemps de ça dans les campagnes françaises pour protéger les récoltes du mauvais œil, des sorciers, des sorcières. Voilà, alors donc ça c'est le clin d'œil au programme de l'an dernier en fait. Rappeler qu'il n'y a pas que les haïtiens qui sont superstitieux, nous le sommes aussi. Alors ensuite on revient à des fêtes religieuses. Insistons, les Saturnales et les Lupercales sont des fêtes religieuses. Je le dis autrement, les Saturnales et les Lupercales sont inscrites dans le calendrier liturgique orthodoxe des Romains. Ce sont des vraies fêtes religieuses. Et ce sont ces deux fêtes-là qui sont à l'origine de tous nos carnavals. On ne comprendrait pas le carnaval d'aujourd'hui sans la référence aux Saturnales et aux Lupercales. Seulement, on aura du soin de bien dire, attention, ce ne sont pas des carnavals. Quand les Romains fêtent les Saturnales ou les Lupercales, ce sont des fêtes religieuses inscrites dans le calendrier liturgique. Alors, les Saturnales, c'est la fête du dieu des semailles, c'est-à-dire Saturne. Donc, les Saturnales démarraient le 17 décembre, dans le calendrier liturgique des Romains de l'Antiquité, 17 décembre. Donc, effectivement, on verra de quoi il en retourne. Qu'est-ce que c'est que cette fête-là? Ajoutons que Saturne est aussi un dieu qui fait référence à un âge d'or, on espère toujours retrouver. Donc on arrive, si vous voulez, au moment de l'année où le soleil a fini de décliner, où le soleil va commencer à reprendre de la force, et c'est justement cet espoir-là d'un âge d'or, d'un retour à l'âge d'or. C'est pour ça qu'on fête, que les Romains, fêtaient donc Saturne à partir du 17 décembre. Alors ça, c'est pour les Saturnales. Les Lupercales. Les Lupercales, c'est à partir du 15 février que les Romains fêtaient donc les Lupercales. Les Lupercales étaient réalisées par des Luperques. Les Luperques sont des prêtres. Des prêtres attachés donc à cette fête religieuse à partir du 15 février. Deux mots là-dessus. Donc il y a une confrérie comme ça de Luperques qui se met en branle dans les rues de Rome à partir du 15 février. Et ces Luperques se comportaient comme des sauvages. Luperque d'ailleurs, Lupercale, l'étymologie renvoie à lupus, donc le loup. Cependant, ils étaient habillés de peau de bouc. Pas de peau de loup, mais de peau de bouc. Seulement, comme ils se comportaient comme des loups, donc on a fait le rapprochement, c'était des gens tout à fait sauvages. C'est-à-dire, plus précisément, que faisaient-ils dans les rues de Rome à partir du 15 février avec des bâtons. Il tapait sur tous les passants qu'il croisait, et en particulier les jeunes femmes. Donc les jeunes femmes étaient battues donc avec des verges, si vous voulez. C'était elles surtout qui étaient visées. Alors intéressant là, ce mythe ce rituel des Lupercales qui fait référence à un mythe. Le mythe en question, c'est celui de l'enlèvement des Sabines par les Romains. Un vieux mythe qui est souvent illustré dans l'art. Alors je vous rappelle effectivement que les Romains ont fondé donc Rome, soit, mais ils n'ont pas de femmes, ils sont que des hommes. Donc l'idée est d'enlever les Sabines. Les Sabines donc des sabins voisins. Les sabins sont leurs voisins. Bon, alors intéressant, c'est-à-dire que les Romains vont enlever des femmes qui sont mariées. Voilà, c'est-à-dire qu'on aura déjà introduit, dans le chapitre précédent, d'abord le thème de l'enlèvement de la jeune épousée. Donc on aura introduit ce thème-là avec Hélène, jeune épousée qui est enlevée par Paris. Donc on aura introduit ça, puis on aura aussi évoqué, donc à plusieurs reprises, le thème de la fécondité. Hein, c'est-à-dire que, bon, là, si on pousse plus loin le mythe des Sabines enlevées par les Romains, une fois enlevées, elles se révèlent stériles. Elles sont stériles. Donc les Romains, pas de chance, donc ils voulaient effectivement des femmes pour assurer leur postérité, disons, pas de chance. Donc les Sabines sont stériles. Donc ils vont consulter l'oracle, et l'oracle leur dit effectivement que si on veut rendre ces jeunes épousées donc fécondes, il faut les, on va simplifier, il faut les fouetter. Parce qu'il y a plusieurs variantes. Il y a une variante qui ne se dit pas. Si je vous la dis, vous ne viendrez pas. Bon cours, hein, c'est vraiment donc, très très particulier. Bon, on va éviter effectivement la variante qui fâche, et donc on va s'en tenir à ça effectivement. Donc les Sabines enlevées par les Romains sont stériles, les Romains consultent l'oracle. L'oracle dit qu'il faut les pratiquer une fustigation, si vous voulez, donc les fouetter, et là elles seront peut-être pas donc fécondes. Et donc c'est ça, les Lupercales, c'est la fête qui commémore l'enlèvement des Sabines par les Romains. Et avec les Saturnales, les Lupercales sont à la racine de tous nos carnavals. Donc on conclura ce chapitre avec une introduction au carnaval, donc notre carnaval si vous voulez. Rappelons que le carnaval c'est un moment païen au cœur du calendrier chrétien. Païen, on l'aura largement illustré dans les cours précédents, donc c'est que le paganisme. Enfin, attention, le paganisme, c'est un point de vue, c'est le point de vue des chrétiens sur l'Antiquité, bon, ou la religion de l'Antiquité. Bon. Donc on aura bien illustré le paganisme et on aura soin de dire le carnaval, c'est un moment païen au cœur du calendrier chrétien. On peut le dire autrement, le carnaval gêne l'Église. Enfin, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est dans le calendrier chrétien et qui gêne l'Église. L'Église qui a cherché à limiter dans le temps et dans l'espace le carnaval, voire à l'interdire. Bon, et pour des raisons qui sont évidentes. Si c'est un moment païen, l'Église cherche à limiter tout ça. Donc on le dira, on verra quelles sont les catégories du carnaval, il y a plusieurs catégories de carnaval. L'histoire, on l'aura un petit peu amorcée avec les Saturnales et les Lupercales, quoique, je le rappelle, Lupercales et Saturnales ne sont pas des carnavals. Hein. Donc on va vous parler, ce sont des fêtes religieuses, hein, très très importantes pour les Romains. Donc on verra la filiation avec effectivement les Romains. Et alors ensuite, on a un chapitre qui s'intéresse à la Gaule. Alors la Gaule est un cas particulier. Donc la Gaule, et ça va nous situer, disons, plutôt au XVIe siècle. Hein, le XVIe siècle, c'est encore la Gaule, hein, c'est pas la France. Hein. Donc le carnaval et le charivari en Gaule. Donc j'insiste beaucoup, c'est un cas particulier. Hein, c'est une singularité, si vous voulez. Le carnaval en Gaule est singulier par rapport à d'autres carnavals donc, ailleurs dans le monde. Alors, donc oui, effectivement, d'emblée, on a un cours pour lequel on se demande quel est le lien avec notre sujet, le carnaval. Bon. C'est le mythe du cerf et du serpent. On va commencer par le mythe du cerf et du serpent. Alors c'est un très très vieux mythe, c'est un mythe indo-européen. Imaginez, ça remonte à loin, très très loin. Bon. Donc c'est un mythe qui est de l'histoire d'un combat, donc le combat du cerf et du serpent, au moment où le cerf perd ses bois, ce qui est une occasion de dire... Carnaval désigne primitivement le moment où les cerfs perdent leur bois. Voilà donc le sens de carnaval. Attention, dans un contexte qui est singulier, c'est le contexte gaulois. Gaulois, c'est le cas particulier. Dans ce cas-là, effectivement, carnaval désigne primitivement le moment où les cerfs perdent leur bois. Donc c'est la fin de l'année. Oui, si on veut la fin d'année, en tout cas le moment où le soleil a fini de décliner. Donc le cerf perd ses bois et ça faiblit considérablement. Si il veut retrouver de la puissance, de la force, il doit combattre le serpent. Donc le mythe nous raconte comment, avec son sabot, il débusque un serpent, et puis donc là le combat commence, et ce combat, il faut bien le comprendre, ce combat c'est donc une lutte de deux principes, le principe masculin et le principe féminin. Et bien sûr, hein, donc, le principe masculin correspond au cerf, le principe féminin au serpent. C'est donc la lutte entre deux principes, le principe supérieur et le principe inférieur, avec toujours donc, le même rapport. Le principe supérieur, c'est masculin et se réfère au cerf, le principe inférieur est féminin et fait référence au serpent. Il faut juste préciser que si on est attaché au mythe indo-européen, alors le serpent, dans ce contexte-là, n'a rien de diabolique. Le serpent, ce n'est pas le diable. Donc, c'est le diable dans le contexte judéo-chrétien. C'est dans ce contexte-là qu'on a fait du serpent le diable. Là, non, pas du tout. Le serpent, c'est la vie. C'est la vie. Le serpent, hein. Et ça l'a toujours été finalement, à peu près partout, dans toutes les civilisations, les Indo-Européens n'échappent pas donc à cette référence. Donc c'est la vie. Et comprenez bien donc, quel est celui du cerf et du serpent. Le cerf combat le serpent, gagne son combat contre le serpent, et c'est pour lui le renouveau. Il a perdu ses bois vont se revigorer, si vous voulez, vont se reformer, se fortifier, etc. Il va retrouver sa puissance au moment précis où le soleil commence à regagner de la force dans le calendrier. Donc c'est un mythe qui est très évocateur. C'est l'annonce du renouveau, en fait. Hein. Donc la lutte du cerf et du serpent, et le cerf qui a gagné contre le serpent, c'est l'annonce du renouveau. Alors, là-dessus, on verra que le carnaval, on l'a bien compris, c'est la singularité gauloise, donc on est en Gaule, cas particulier. Le carnaval est comme une réactualisation à même du mythe du cerf et du serpent. On essaiera d'expliquer comment et pourquoi, et on aura pour cela besoin des Celtes. Ce sont les Celtes hein, qui sont des Indo-Européens. Les Gaulois, nos ancêtres, sont des Celtes, donc des Indo-Européens. Or, les Gaulois, les Celtes, avaient un dieu extrêmement célèbre, c'est le plus connu de tous les dieux Celtes, c'est Cernunnos. Cernunnos, on pourrait rajouter au bois de Cervidé. C'est-à-dire que quand les Gaulois représentent Cernunnos, le grand dieu Celte, ils le font ressembler à un cerf, hein, au bois de Cervidé. Or, les Gaulois, les Celtes, aimaient la confrontation de Cernunnos et de la serpente. Dans la mythologie des Celtes, il y a cette image très forte de Cernunnos au bois de cerf qui est confronté à la serpente, par exemple sur le chaudron de Gundestrup. C'est une pièce artistique celte magnifique, magnifique. Sur le chaudron de Gundestrup, vous avez Cernunnos au bois de cerf et la serpente. Bon, alors on verra comment effectivement ce carnaval réactualise le mythe du cerf et du serpent. Là-dessus, on parlera du charivari. Toujours ce cas particulier, gaulois. Entendons-nous bien sur le charivari. Qu'est-ce que le charivari? C'est un tapage discordant qui accompagne l'exécution d'une mesure judiciaire. Alors là, on se dit, tout à fait étonnant. Et surtout, la question qu'on se pose, c'est quelle mesure judiciaire? Donc c'est un tapage discordant qui accompagne l'exécution d'une mesure judiciaire. Voilà la définition du charivari, en tout cas pour le cas gaulois. Mesure judiciaire, c'est plus précisément le jugement des cocus. Voilà donc la mesure judiciaire. Et là, c'est là où on se rend compte, attention, ce programme d'histoire des religions n'est pas un programme d'histoire de l'art. L'histoire de l'art, oh là là, donc on y vient, il vient cool, quoi, hein, l'histoire de l'art, c'est pas difficile, l'histoire de l'art, ça n'implique pas trop les neurones, hein, on va juste pour dire c'est beau, hein, donc telle ou telle chose c'est beau. Hein. Mais là, donc, l'histoire des religions c'est suivi, hein, c'est un programme suivi. Donc si vous ratez un cours, bon, c'est peut-être, surtout là, pour ce chapitre-là, ça sera peut-être plus difficile de bien comprendre les choses. Maintenant vous avez compris, le jugement des cocus. Qu'est-ce qu'on leur donne le cocu?
Des cornes,
des bois, si vous voulez. Oui. Bon. Pourquoi leur donne-t-on des cornes? Parce qu'ils sont impuissants. Ils sont impuissants à satisfaire leurs épouses, qui vont voir ailleurs, si vous voulez, bon, pour faire simple. Hein. Et donc, quand on leur donne des cornes à ces cocus, ce que l'on espère, c'est qu'ils soient puissants qui retrouvent leur puissance, hein, donc là ils seront plus le cocu, donc jugement des cocus effectivement, qui relance du même coup bah, cette, ce combat entre d'un côté le cerf et de l'autre le serpent. Et on travaillera tout ça bien sûr, les subtilités qui sont tout à fait fameuses, hein. Donc on verra cela, puis là on passera des très naturellement au géant Gargantua, parce que vous le savez effectivement, dans les livres 3, 4 et 5 de Gargantua, enfin, donc le texte de Rabelais, donc Rabelais pastiche le mythe du cerf et du serpent. Hein, je vous rappelle en effet que Rabelais imagine un combat entre Pantagruel et la reine des Andouilles. Imagine ce combat. La reine des Andouilles habite l'île Farouche. Bon, et Pantagruel mène un combat contre cette reine-là. Or, pour gagner ce combat, il a besoin d'une aide qui lui est indispensable. C'est l'aide du noble Mardi Gras. Sans quoi, il ne pourra pas combattre donc la reine des Andouilles. Et donc, bien sûr, qu'est-ce que vous avez à travers ce récit? Vous avez le combat de Carnaval et de Carême. Le combat de Carnaval et de Carême. On va se dire le combat du cerf et du serpent. Donc de là, on passera à la fée serpente Mélusine. Hein, donc on aura effectivement à parler de la fée serpente. Pourquoi dans le serpent? Ben, donc on l'aura préparé, ben, c'est toujours la même chose. Hein. Et finalement, donc, on conclura ce chapitre en disant Gargantua et Mélusine sont les avatars de divinités indo-européennes. Les Celtes, donc les Gaulois, nos ancêtres, ont conservé dans leur récit, leur mythe, si vous voulez, des divinités très très anciennes qui sont indo-européennes. Et quand Rabelais écrit son texte, ce qu'il fait, c'est faire ressortir justement ces divinités, Gargantua et Mélusine, hein, le cerf et le serpent. Hein, pourrait-on dire, pour simplifier, bien sûr, il y aura des nuances à observer. Donc voilà pour ce cas particulier. C'est le cas particulier du Carnaval et du Charivari en Gaule. Ensuite, bon, ben, on conclut cette année avec un grand chapitre sur le folklore européen, contes, légendes, superstitions et croyances populaires. On va démarrer par le folklore français imprégné d'éléments mythiques. Bon, ben, tout aura été préparé auparavant. Enfin, bon, on expliquera bien effectivement que le folklore inclus par sa nature. Quelle est la nature du folklore? Ben, donc le folklore, c'est un ensemble de traditions populaires. Donc le folklore va inclure par sa nature des fragments mythiques, parce que le folklore, c'est un ensemble de traditions populaires. Bon, on aura préparé ça, et on aura des exemples à donner. Parmi ces exemples, les contes populaires. Bon, peut-être avez-vous raconté à vos enfants, peut-être même à vos petits-enfants, les contes de l'amour des trois oranges et la quête de l'époux disparu. Bon, en tout cas, ce sont des contes qui sont toujours vivaces, hein, si vous voulez. Très, très intéressants. Pourquoi? Parce qu'on va relancer avec ce conte populaire, hein, qui peut être raconté aux enfants, on raconte aux enfants encore aujourd'hui. On va relancer la figure de Psyché. Donc la quête de l'époux disparu, en fait c'est un conte, hein, c'est un vrai conte Psyché. Donc on parlera effectivement de nouveau donc de la jeune épousée qui a transgressé un interdit. Donc la conséquence, c'est qu'elle perd son époux et elle va vivre des épreuves qui sont très très difficiles bien sûr, comme de Psyché. Et au terme de ces épreuves, si elle remporte toutes ces épreuves, elle retrouvera son époux. Et là, elle pourra bien sûr donc se dire l'épouse, disons, je ne trouve pas le mot, officiel si vous voulez, hein, c'est pas le mot juste, bon. Donc l'épouse tout à fait, donc officielle de l'épouse. Mais pour ça, il faudra effectivement qu'elle passe par des épreuves. Hein. Ces épreuves la conduisent dans la baisse. Une initiation est toujours une mort symbolique. On passe toujours par une mort symbolique. Et tout ça, c'est dans les contes qu'on raconte aux enfants. Et la racine de ces contes est très très lointaine, c'est Psyché, c'est les mythes grecs de l'Antiquité, etc. Ou les mythes indo-européens, en fait. Les Grecs sont des indo-européens. Alors ensuite, on parlera du rituel populaire du mariage. Alors effectivement, ça se pratique plus tellement. Mais enfin, on peut trouver quand même des formes dérivées de ce rituel populaire du mariage qu'on appelle la fiancée cachée. Ou alors on l'appelle ailleurs la fausse fiancée. Ou alors la fiancée substituée. Et on verra pourquoi, effectivement, le rituel populaire du mariage passe par cette figure de la fiancée qui ne veut pas se montrer cachée, fausse fiancée, fiancée substituée. Là, vous avez des rituels très très intéressants, et ce sera une occasion pour nous, bien sûr, de reparler du mariage, et de dire que finalement, depuis l'Antiquité, depuis les puissances du mariage en Grèce, l'initiation tribale féminine en Grèce, la figure de Hélène, on n'a pas perdu, vous voyez, ces formes ritualisées, mais qui deviennent folkloriques, en fait. Hein. Ça intègre désormais le folklore, les traditions populaires. Alors ensuite, on passera au feu, bûcher, brandon, rouge enflammé, vous le savez, donc à l'occasion de Noël, le 24 décembre, puis à l'occasion de la Saint-Jean, c'est-à-dire 24 juin, on organise des feux, des bûchers, des brandons, des roses enflammées. Donc c'est-à-dire c'est une période qui couvre du moment où le soleil a fini de décroître, période où il commence donc une sorte d'ascension, il se fortifie, etc. Et arrivé donc au solstice d'été, c'est la Saint-Jean pour aujourd'hui, 24 juin, donc on va organiser des feux, des bûchers, des bandons, des roses enflammées, etc. Ça c'est très très important, ça se fait toujours aujourd'hui, et bien sûr la racine de tout ça est très ancienne. Hein. Donc justement, on parlera de Noël, hein, le cours suivant est consacré à Noël. Noël, Néo-Hélios, si l'on veut, donc la fête du nouveau soleil. Hein. Vu comme cela, bien sûr, ça ne plaît pas aux chrétiens, mais enfin, on ne l'aura pas caché, le folklore et le carnaval, ce sont des moments païens, ou des choses païennes, au cœur du calendrier chrétien. Alors donc Noël, et on parlera en particulier de pratiques populaires au cours de Noël, la fête des fous et la fête de l'âme. Alors en effet, il faut le savoir quand même, jusqu'à une époque assez récente, on faisait prêcher à l'église des idiots et des enfants. C'était la fête des fous, si vous voulez, hein, qui a lieu à Noël, dans le temps liturgique de Noël. On intégrait effectivement cela. Et ça se faisait réellement. De même que on faisait prêcher des ânes coiffées de la mitre. Donc réellement, dans l'église, on faisait venir un âne coiffé de la mitre à l'occasion de cette période de Noël. Ben, ce sont des traditions, c'est un folklore. L'église n'aime pas, mais il semble qu'on ne peut pas se passer, cependant, on ne peut pas interdire aux gens de pratiquer leur tradition, leur folklore. Hein. Donc là, l'Église a dû s'adapter. Donc fête des fous, fête de l'âme. Et au bout de ce cycle de Noël, le 28 décembre, on élisait le pape des fous. Le pape des fous. Et là, bien sûr, on retrouve quoi en substance, les Saturnales. C'est vraiment le cœur même des Saturnales. Donc ça sera aussi une occasion pour nous de parler du Père Noël, tant qu'à faire. Hein. Si on parle du pape des fous, on parlera du Père Noël. C'est la liturgie folklorisée de l'épiphanie. Allez, donc là, il y a deux mots qui sont antithétiques. Épiphanie, c'est une fête éminemment religieuse, chrétienne, si l'on veut. Quoique c'est quand même très emprunté à l'Antiquité. Mais là, on parlera de la liturgie folklorisée de l'Épiphanie, à travers notamment le roi de la fève. Hein, c'est-à-dire qu'on a élu le 28 décembre le pape des fous, arrive l'Épiphanie, c'est effectivement le roi de la fève qu'on va choisir, ou du moins qui va se choisir lui-même, en trouvant la fève dans le gâteau. Si l'on veut y remarquer qu'aujourd'hui, c'est que ça l'épiphanie. C'est devenu une attraction commerciale. Les boulangers vont produire leurs galettes, puis ça ne finit pas. Hein. Donc c'est un peu avant l'épiphanie, c'est-à-dire à partir, je ne sais pas, du 1er décembre, quand on a la galette des rois, et jusqu'au 31 février, voire le 31 mars, on peut encore trouver la galette des rois dans la boulangerie ou la pâtisserie du coin. Donc voilà, donc la liturgie folklorisée d'épiphanie, le roi de la fève. On parlera de la fête, bien sûr, ça sera l'occasion, et ça sera l'occasion de parler d'autre chose. Hein. Donc dans ce cycle-là, pourquoi pas, le gui, ça aussi c'est un rituel très intéressant. Ensuite, carême, bon, on retrouve notre combat de carnaval et carême, seulement là on va l'aborder sous l'angle du ou des déguisements, mascarades, cavalcades. C'est important effectivement d'accompagner le carnaval de cela, c'est-à-dire bon, du charivari, on l'aura vu, mais aussi des déguisements qui sont fantastiques. Pensez simplement donc à ce tableau de Pierre Bruegel l'Ancien, de le combat de carnaval et carême, on voit des déguisements qui sont magnifiques, mascarade et cavalcade, tout ça, ça fait partie du carnaval. Hein. Donc, on continuera avec les farces collectives qui, justement, accompagnent le carnaval, telles les promenades du mari battu et du cocu. On va retrouver notre cocu. Ça, c'est des choses qui étaient très, très pratiquées, qui se pratiquent encore, hein, mais c'est un peu détourné, c'est un peu différent parce que la société a changé. Donc quand on pratique le carnaval, bon, on retrouve des formes qui se rapportent à ça, mais qui ont changé quand même. Encore une fois, l'important c'est ça. L'ethnologue nous dit que ce qui importe est la fonction actuelle du folklore qui ne survit ni ne disparaît jamais sans raison. Donc si on continue donc à pratiquer le carnaval, si on continue donc à pratiquer un folklore, c'est pour des raisons particulières. Mais ça évolue constamment, si vous voulez. Et c'est l'évolution qui est intéressante. Donc on parlera de ça, donc de ces promenades du mari battu et du cocu, et autres punitions symboliques qui ont lieu à l'occasion, justement, de ce combat de carnaval et de carnaval. Et enfin, on conclura cette année avec le pouvoir magique des danses et rondes carnavalesques. Donc un petit clin d'œil bien sûr au programme de l'an dernier qui était consacré au vaudou et à la magie. Et ça c'est une façon de dire bien sûr que les haïtiens, les vaudouisants n'ont pas disons le privilège de la superstition, que la superstition, les croyances magiques finalement, ben, elles sont partout. Donc, nos sociétés sont donc imprégnées de ces croyances-là. On n'a pas le monopole du cartésianisme d'une part, finalement. Les haïtiens n'ont pas le monopole de la magie ou du vaudou. Donc c'est très très présent dans nos sociétés, en fait. Donc voilà le parcours que je vous propose concernant ce sujet, ce programme, qui est un vrai programme d'histoire des religions. Et seulement, ben voilà, donc on aborde le domaine, donc la discipline de l'histoire des religions, avec un point de vue qui est un peu décalé, un peu différent, au lieu de toujours parler des mêmes religions. Christianisme, judaïsme, islam. Comme si, il n'y avait que ça, finalement. Il n'y avait que ça dans l'histoire des religions. On essaye de voir les choses autrement et de remarquer que ces grandes religions universelles de salut, christianisme, judaïsme et islam, ne peuvent rien faire contre des formes païennes des religions qui sont bien présentes dans nos sociétés à travers le folklore et le carnaval. Voilà à peu près donc l'itinéraire que je vous propose pour cette année. Auriez-vous des questions à poser ou bien sur l'organisation donc, de ces cours ici, le mercredi après-midi, sur le programme, son contenu, le calendrier, le rythme des cours, n'hésitez pas. Pensez au site, voilà, vous y trouvez donc une bibliographie. Vous y trouvez un texte qui va vous préparer un peu donc, aux deux premiers cours. Voilà, des questions peut-être concernant ce programme qui va donc commencer dès la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie d'être venu. Je vous dis à la prochaine.